L'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac qui se cultive toutes les semaines.
Bonjour à toutes et à tous, il est midi 2 et c'est l'heure de l'actu sur un plateau, une heure pour faire le tour de l'actualité locale sur les ondes de Radio Larzac. Au programme aujourd'hui, l'interview de notre bénévole Nicolas à Daniel Neuville, directeur de recherche au CNRS. Juste avant, on reçoit la compagnie La Brebis Égarée qui viendra nous présenter sa nouvelle création « Par quoi je me sauve ». On aura aussi la chronique musicale de Jérôme. Mais tout de suite, c'est le journal de Millau en ondes avec Alex. Et à suivre, les dossiers du journal de Millau avec Loïc et son invité Lain Vidal, lieutenant au centre de secours de Millau.
Surtout, ne touchez à rien, ne bougez pas, restez avec nous. Dans un instant, le reste de l'actualité.
C'est parti pour notre petite revue de presse. Une lecture en ondes du journal de Millau, le PRP-JDM et sa boîte à... Le journal de Millau de cette semaine revient sur quelques événements mis à voie passée, tels que le salon du mariage, l'assemblée générale du jardin du Chéran, la journée internationale des femmes rurales et le rassemblement des bibliothèques sonores de l'Occitanie. À part ça, en page 4, le journal de Millau nous informe qu'une délégation sud-africaine est en visite dans le sud d'Aveyron à propos de Paris 2024 et son label Terre de jeu. Toujours en page 4, le journal de Millau relaie les revendications exprimées lors de la grève interprofessionnelle du 18 et la mobilisation des parents d'élèves du Larzac concernant la suppression des lignes scolaires. Cette semaine, le journal publie en page 8 et 9 une double page sur les sapeurs-pompiers de Millau. Vous en saurez plus en écoutant les dossiers du journal de Millau, présenté par Loïc, dans l'actu sur un plateau et en podcast sur notre site radiolarzac.org. Côté politique, en page 10, le journal de Millau nous informe de la dissolution du conseil municipal de Saint-Jean-du-Bruel, du passage de Carole Delga à Millau et à Rodez, et en page 16, nous apprenons qu'Arnaud Viala a testé la cantine de Pont-de-Salars. Non mais c'était un menu végétarien. En page 21, le journal de Millau nous annonce que Micropolis a reçu le label divertissement durable grâce à sa pratique du fauchage tardif, à sa restauration à base de produits locaux et à ses espaces de compostage accessibles à tous. En page 22, dans sa rubrique « Un jour, une info », le journal du Millau explique aux jeunes lecteurs pourquoi le peuple iranien se révolte. En page 24, le journal de Millau nous informe que du broyat est à récupérer à la déchetterie de Sévrac d'Aveyron.
Surtout, ne touchez à rien, ne bougez pas, restez avec nous. Dans un instant, le reste de l'actualité...
Enfin, en page 30, le journal de Millau nous annonce les événements à venir tels que la foire à la châtaigne de ce dimanche 23 à Castelnau-Péguérolles et la journée d'échange entre paysans d'aujourd'hui et de demain, ce mercredi 26 à la cavalerie. Ouais, il y aura tes copains.
téléspectateurs en demande, images passées et repassées. J'en ai tant dit et redit, je suis perdu. J'ai usé de nos experts.
Voilà, c'était la petite revue de presse, une lecture en ondes du journal de Millau de cette semaine et sa boîte à meux.
Sondeurs de sondages, commentateurs, menteurs d'images, et sous leur toison lisse glissent des scies. Superpositions de suppositions, ils vont me mettre ma télé en bouteille.
Merci Alex. Et justement, pour creuser le dossier sur le quotidien des sapeurs-pompiers de Millau, je reçois Loïc Baye, journaliste au journal de Millau. Bonjour Loïc.
Bonjour.
Et ton invité, Lin Vidal. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc lieutenant du centre de secours de Millau, responsable de l'équipe drone de l'Aveyron et spécialisé dans les feux tactiques. Donc après un été marqué par des incendies exceptionnels à Aveyron, les sapeurs-pompiers sortent fatigués et craignent déjà la saison des pluies. À cette situation difficile s'ajoute un manque de volontaires et au passage aussi la crise des carburants. Mais malgré tout, il faut donc assurer le quotidien. Alors Loïc, qu'est-ce qui t'a amené à aller à la rencontre des pompiers ?
Justement, pendant cette période d'incendie intensif pendant l'été, je trouvais presque frustrant de faire un seul article de compte-rendu de où on en était des incendies. Et on attendait le bon moment pour revenir un peu sur tous ces événements.
Très bien. Et donc, qu'est-ce que tu as préparé comme question ?
Alors justement, pendant cette interview qui a été réalisée avec le commandant Bûcher et le lieutenant Digout, on parlait du risque de passer d'un extrême à l'autre, du risque incendie au risque inondation. Là, on le voit actuellement ces derniers jours avec des températures anormalement hautes en cette saison. Comment est-ce que vous faites justement pour travailler en cette saison automnale qui était peut-être avant censée être une période un peu plus tranquille par rapport à l'été ?
Alors c'est vrai qu'on sort d'une saison assez intensive hein, sur la partie aveyronnaise et notamment sur le sud d'Aveyron où on a connu plusieurs feux de forêt conséquents. Sur la partie automnale, on est habitué sur ces périodes-là à avoir des épisodes qu'on dit cévenoles, hein, puisque la température de la mer reste encore chaude, les orages et les nuages s'accumulent sur le premier relief qu'ils rencontrent, c'est-à-dire les Cévennes, et ensuite ce qui génère des pluies torrentielles sur les secteurs sud Aveyron notamment. Et donc on s'y prépare, on suit bien évidemment les conditions météo avec Météo France, et ensuite on adapte les moyens sur le terrain en fonction du risque établi par Météo France.
Comment justement ?
Alors en fonction du risque établi, on va y positionner ou prépositionner des moyens, comme on peut le faire sur la partie feu de forêt, avec des groupes d'intervention spécialisés dans le sauvetage aquatique, qui vont être positionnés, qui sont assez mobiles, hein, puisque le risque est souvent assez se déplace relativement rapidement. Donc c'est des prépositionnements sur des centres de secours dans un premier temps, et ensuite un développement sur le terrain en fonction de l'orage et de où il se situe exactement.
D'accord. Justement, pendant l'été, on a eu la visite du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui tenait à peu près le même discours que Arnaud Viala, président du département et aussi du SDIS de l'Aveyron, notamment pour demander aux entreprises et collectivités de libérer les volontaires. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, au sein du SDIS, nombreux sapeurs-pompiers disposent d'une convention hein, entre l'employeur, le SDIS et le sapeur-pompier. Ces conventions ont deux rôles. D'abord, de pouvoir libérer du temps aux sapeurs-pompiers volontaires pour se former, hein, puisque on voit qu'aujourd'hui, les risques évoluent. Et donc, les sapeurs-pompiers doivent être formés à ces nouveaux risques et se maintenir en compétence face à ces risques. Donc cette première convention permet, dans un premier temps, de libérer des jours hors jour de congé pour que les sapeurs-pompiers volontaires puissent se former. Et ensuite, il y a des conventions de disponibilité opérationnelle où là, c'est l'employeur libère l'agent sur des événements, alors soit d'ampleur, comme on l'a connu cet été, mais aussi sur les événements courants, hein, puisque je vous prends l'exemple du centre de secours de Millau. Aujourd'hui, de garde, il y a 8 sapeurs-pompiers qui sont principalement professionnels. Mais si ces 8 sapeurs-pompiers-là sont sollicités pour des interventions, ce qui arrive très régulièrement, mais il faut derrière que les sapeurs-pompiers volontaires soient disponibles pour assurer d'autres interventions, sans parler d'interventions majeures.
On rappelle qu'à Millau, c'est à peu près 80 volontaires pour une vingtaine de professionnels.
Oui, c'est ça exactement, c'est 80 volontaires, 25 sapeurs-pompiers professionnels. Et l'organisation aujourd'hui, c'est qu'en journée semaine, c'est majoritairement des sapeurs-pompiers professionnels, de garde postée. Et ensuite, à partir de 19h le soir jusqu'à 7h le matin, c'est majoritairement des sapeurs-pompiers volontaires.
Il y a eu le congrès annuel des sapeurs-pompiers à Nancy où Gérald Darmanin a confirmé justement réfléchir à un nouveau modèle de sécurité civile avec le gouvernement qui envisage de créer un statut particulier pour les volontaires. Il a aussi demandé à ce que les départements jouent une solidarité financière entre eux, avec des départements plus ou moins touchés. Aujourd'hui, où est-ce que se place l'Aveyron par rapport à ses voisins comme l'Hérault ou le Gard ?
Alors, la politique feu de forêt, notamment, qu'on a connue cet été, c'est vrai qu'elle est moins développée que les départements de la frange méditerranéenne, qui, eux, subissent ces incendies de forêt de manière régulière. En revanche, ce retour d'expérience que l'on doit avoir, nous, suite à cette saison de feu de forêt, passe notamment par l'entraide entre départements qui ont subi ces feux, et notamment, je pense à la Lozère, où, voilà, déjà, quelques pistes sont en cours d'élaboration pour éventuellement louer un hélicoptère bombardier d'eau entre deux départements pour limiter et avoir une action sur un feu naissant, par exemple. Il y a des choses qui sont en cours d'évaluation, d'élaboration. Est-ce que ça sera l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans, ça, on ne peut pas le savoir aujourd'hui. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un vrai enjeu national et aussi local pour développer un petit peu les moyens de lutte contre les feux de forêt, notamment.
Et justement, à propos des moyens de lutte contre les feux de forêt, dans l'article, vos collègues ont évoqué certaines pratiques pour limiter les dégâts et les incendies. Par exemple, le fait de cloisonner des surfaces. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste cette pratique ?
Alors, on l'a vu par les médias cette année, notamment sur les feux en Gironde, où l'exploitation forestière faisait qu'il y avait beaucoup de surfaces de forêt non recoupées, et donc ça a généré des feux comme on l'a connu cet été. C'est vrai que la préparation du terrain, de manière globale, que ce soit le fait de faire des zones coupe-feu, que ce soit de faire des pistes d'accès aux massifs forestiers, mais aussi l'aménagement de citernes qu'on appelle DFCI, de la défense de la forêt contre l'incendie, tout ça c'est des choses qui sont établies en Aveyron sur les forêts qui sont gérées par l'ONF, du domaine public, mais qui ne sont pas pratiquées dans le domaine privé. Voilà. Donc ça nous génère forcément des complications, et les feux qu'on a connus sur le sud d'Aveyron cette année, c'était que du domaine privé quasiment, en grande majeure partie, et donc forcément nous ça nous complique la tâche, puisqu'on a des difficultés à accéder aux massifs forestiers, très peu d'accès et très peu de points d'eau.
Et tout à l'heure, vous avez évoqué donc le risque d'épisode cévenol. Pour en revenir brièvement, c'est quand la température de la mer est très chaude et qu'il y a une évaporation, il pourrait y avoir des fortes pluies, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Ouais. C'est suite à la saison d'été. En plus, celle-ci a été très marquée, avec de fortes chaleurs et la température de l'eau étant encore très chaude sur la partie automnale. L'accumulation de la vapeur d'eau au-dessus de la mer vient générer des nuages importants qui vont s'accumuler, évoluer vers les premiers reliefs, stationner sur ces reliefs-là et générer des pluies et des cumuls de pluies torrentielles sur ces reliefs-là. Alors, c'est très souvent très localisé. Mais en tout cas, on les connaît sur la partie Cévenol.
Eh bien, merci beaucoup Loïc, si tu avais autre chose.
Non, je pense qu'on a été complet.
Oui, bah merci à vous aussi. Donc, Lin Vidal, lieutenant au centre de secours de Millau. Et on vous souhaite d'ailleurs bon courage pour ce week-end, parce que vous serez pour le festival de Templiers.
Merci à vous et bonne journée.
Merci Loïc. Et donc pour annoncer la pause musicale, je suis accompagnée de Jérôme. Bonjour Jérôme.
Bonjour Sophia.
Alors c'est ta première chronique musicale, qu'est-ce que tu nous as préparé ?
Exactement, du coup c'est une chronique musicale et aujourd'hui je vais vous présenter un titre rap que j'écoute beaucoup et que j'adore. C'est le titre 10 ans de l'artiste Canoë. C'est un morceau que je trouve moi plein d'émotions, qui vient d'un artiste très jeune, qui est âgé de 18 ans et qui avait que 17 ans quand il a écrit le texte. Et c'est des paroles touchantes, des rimes travaillées, et je trouve ça beau, et c'est pour ça que je voulais vous le partager.
Alors, tu nous parles de paroles touchantes, de quoi il parle alors, Canoë ?
Par exemple, dans le titre, il dit des phrases comme « La différence te fait voir les vrais visages » ou encore « Devant le miroir, du mal à me reconnaître rongé par le regard des gens ». Donc c'est des phrases touchantes qui décrivent beaucoup de jeunes en ce moment par rapport au réseau ou par rapport à beaucoup de choses. Les jeunes, ils peuvent se reconnaître du fait que Canoë, il parle de ses sentiments dans le son. Et on voit que ça permet de se lier à l'artiste, et c'est pour ça que moi j'adore ce son, et ça permet de se reconnaître aussi dans un sentiment universel un peu.
Oui, bien sûr. Et donc ces paroles font que ce titre est ton préféré de cet artiste ?
Je pense, oui, pour donner mon avis. Moi, je pense que c'était son meilleur titre de 2021. Parce que je rappelle qu'il a écrit le texte à 17 ans, donc il était très jeune. Et pourtant, c'est des paroles touchantes, comme j'ai dit. C'est bien écrit, c'est du talent
qu'il faut reconnaître, oui.
Oui, voilà, qu'il faut reconnaître, surtout comme il est jeune. Mm. Et je vous propose tout de suite d'écouter 10 ans de Canoë. C'est parti.
Un enfant pas accepté, turbulent, pas méchant, pas concentré. La différence te fait voir les vrais visages. Un peu ailleurs, généreux mais pas très sage. Seule la nuit noire me laisse un peu de temps pour réfléchir à demain. Devant le miroir, du mal à me reconnaître, rongé par le regard des gens. Seul l'avenir nous le dira, mais j'ai pas le temps d'attendre, j'ai besoin de savoir où est-ce que mon âme finira. Si je décide de laisser problème à droite, mes espoirs grandissent à mort, même si j'ai plus trop le temps. T'auras beau leur prouver qu'ils sont tort, ils te descendront encore. Et regarde la vie que je mène, j'ose pas imaginer dans 10 ans. Dans mes rêves, je vois ma mère, mais j'espère la voir le plus longtemps. L'espoir fait vivre, paraît-il, mais j'ai toujours le compte à zéro. Depuis j'ai grandi, je me suis rendu compte que t'es personne sans les lots. La vie que j'ai menée est dure, et la vie qui m'attend les plus. J'arrêterai ma passion quand j'aurai assez de lever pour élever un fils. En ce moment, j'ai pas la tête à donner mon cœur, du coup, quand faut sourire, j'improvise. Comme dirait LYMS sur le testament, y'aura que la mif. J'veux devenir une star, c'est la guerre des étoiles. J'vais laisser ma trace dans la légende du rap. J'accomplis des choses qu'ils imaginaient pas, à part mes darons qui m'aidaient quand j'allais mal. Mes espoirs grandissent à mort, même si j'ai plus trop le temps. T'auras beau leur prouver qu'ils sont tort, ils te descendront encore. Et regarde la vie que j'mène, j'ose pas imaginer dans 10 ans. Dans mes rêves, je vois ma mère, mais j'espère la voir le plus longtemps. L'espoir fait vivre, paraît-il, mais j'ai toujours le compte à zéro. Depuis j'ai grandi, je me suis rendu compte que t'es personne sans les lots. Et regarde la vie que je mène, j'ose pas imaginer dans 10 ans. Dans mes rêves, je vois ma mère, mais j'espère la voir le plus longtemps. L'espoir fait vivre, paraît-il, mais j'ai toujours le compte à zéro. Depuis j'ai grandi, je me suis rendu compte que t'es personne sans les lots.
Et nous revoilà donc en direct de Radio Larzac. Vous venez d'écouter Canoë avec son titre 10 ans. C'est Jérôme qui nous l'a présenté.
Exactement, donc on vient d'écouter 10 ans comme Sophia vient de le dire. Si vous voulez suivre un peu le parcours de Canoë, il en est aujourd'hui à 2 projets musicaux. Il en a sorti un premier en fin 2020, un autre en fin 2021. Et il en prépare un troisième pour la fin 2022 ou début 2023.
Merci Jérôme. Et entre-temps, Joshua et Stefano nous ont rejoints en studio. Josh, tu es musicien pour le groupe Mama 7 de la compagnie La Brebis Égarée. Bonjour.
Bonjour.
Et Stefano, tu es metteur en scène à la compagnie. Bonjour à toi aussi.
Bonjour.
Donc La Brebis Égarée, c'est une compagnie de spectacles vivants et audiovisuels. Vous êtes ici pour nous présenter Par quoi je me sauve, un spectacle musical écrit et composé par Joshua et mis en scène par Stefano. Donc c'est une première représentation qui est prévue ce mardi 8 novembre à 20h30 au Théâtre de la Maison du Peuple de Millau. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet avec ce spectacle, votre compagnie, en fait, vous la définissez comme ayant pour pilier le cirque, l'audiovisuel et la musique. Donc pourquoi spécialement ces trois domaines ?
Disons que le travail de manière générale de cette compagnie, c'est une rencontre entre ces domaines-là, c'est une rencontre pluridisciplinaire, c'est... c'est des outils qu'on essaie de mettre au service d'un but de partage, de création. Et il se trouve qu'on a chacun apporté notre pierre à cet édifice. Et donc moi, je viens plutôt du cinéma à la base. Anaïs, de la danse et du cirque. Donc Anaïs Droite, qui est la directrice de la compagnie et qui joue aussi d'un Par quoi je me sauve. Et donc d'un Mama Said, violoncelle, basse, chant et du coup danse et acrobatie dans le spectacle Par quoi je me sauve. Et disons que dans les outils, la panoplie des outils qu'on met au service des spectacles, tous les collaborateurs, on est assez chanceux. Je pourrais parler de Stéphano, mais il le fera mieux que moi, mais d'avoir accès à des talents, des outils qui ouvrent et qui sont pas là de façon à décorer, mais à renforcer un propos, de dynamiser, d'essayer de trouver d'autres moyens de rentrer, d'avoir accès au public, de partager des moments forts. Voilà.
Et votre spectacle Par quoi je me sauve, il est sur le thème du rock et de la musique urbaine. Et il évoque la traversée d'une Amérique turbulente et explosive. Et comment ce spectacle il est né et combien de temps a duré l'étape de la création?
Tu veux prendre cette question-là?
Ce spectacle est né parce que moi j'avais vu Mama Said. Mama Said, donc, c'est le groupe musical avec Georges et exactement le même musicien. C'était super. Mais je ne comprenais rien de chansons parce que Georges est américain et moi je ne parle pas correctement l'américain. Si c'était un italien, ça n'aurait été aucun problème, mais là, ce n'est pas le cas. Donc je lui demandais, mais est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que tu chantes? Donc il m'a montré ce texte traduit en français, que ce n'est pas tout à fait juste de traduire, trahi en français peut-être, parce que c'est pas du tout la même langue, pas du tout la même culture, des choses qui sont intraduisibles. Et je trouvais ces textes extrêmement parlants. Ça m'a beaucoup touché. Vu mon âge, je fais référence à la Beat Generation des États-Unis, qui était très importante pour ma génération. Et je me dis, mais ça, faut que tout le monde puisse le comprendre, le prendre avec. Et il projetait sa propre histoire, parce que Josh, il parle de sa propre histoire. Et mon rôle, c'est que le public puisse la prendre et y projeter son propre théâtre. C'est ça, il y a un étrange oxymore au théâtre, qu'il faut en même temps avoir un ego bien solide, mais aussi une certaine modestie. Donc il faut donner au public le maximum et surtout que l'écriture soit le plus claire possible. Donc c'est né comme ça, on s'est rencontrés, on a commencé à travailler, c'est absolument génial. Ils ont une panoplie, une capacité, une versatilité énorme, ce qui est rarissime pour mettre en scène. Et donc on a décidé, c'est du théâtre, c'est du théâtre musical, c'est de la musique théâtrale, voilà.
J'aurais jamais fait ça sans cette rencontre. Là, c'est important de le dire parce que parler de soi, même si dans cette formule-là, c'est disons qu'il y a une distance qui est prise quand même et c'est l'Amérique, c'est aussi une espèce de trauma collectif dont on peut parler même dans l'actualité, mais aussi par rapport à l'Amérique. C'est pas évident, j'aurais pas été dans cette direction-là. Et c'est la rencontre, c'est la compréhension des textes, ces échanges-là, et autour de la musique, et autour des thématiques qui sont abordées, qui a fait naître ses envies, la confiance de dire, oh, bah, si tu le dis, ok, bah, on y va. Mais voilà, c'était... Voilà, donc...
Et donc, au final, les musiques racontaient déjà une histoire qui est l'histoire du spectacle, où tu as composé des musiques exprès qui collaient un peu à l'idée de Stéphano aussi?
Oh oui, pour les deux.
Non, d'accord.
C'est beaucoup les musiques du groupe. Pas forcément toutes les musiques étaient jouées par le groupe, c'est des musiques que j'avais composées et d'autres qui sont venues. Pas exprès, je vais composer ce morceau pour Stéphano pour le spectacle, mais suite à nos échanges qui enrichit la réflexion sur soi, sur le monde dans lequel on vit, comment est-ce qu'on peut communiquer autour de ça, comment faire un truc qui soit juste, pertinent, et puis des choses qui naissent à partir de ce moment-là, comme tu avais tout processus de composition. Voilà, donc c'est une période assez riche, ça fait un an et demi pour revenir sur la question précédente. C'est un spectacle immersif, donc ceux qui viendront mardi le 8 à la Maison du Peuple, on va se plonger dans c'est comme si on avait rajouté des dimensions à un concert. On pouvait éplucher l'oignon pour rentrer davantage dedans et avoir d'autres sensations qui sont liées à la danse, à la vidéo, au mouvement scénique, aux textes qui sont du coup des trahisons, des traductions, donner un tourbillon, je pense que l'idée pour nous c'est aussi un peu la force, l'idée de la puissance de la proposition qui j'espère marchera sur son public, quoi.
Et oui, tu as parlé tout à l'heure des thèmes d'actualité et le spectacle Par quoi je me sauve parle par exemple de la précarité ou de la santé mentale. Si tu devais résumer, vous deviez résumer, quel serait le message que ce spectacle essaye de faire passer?
Tu l'as bien fait, je pense que c'est ça, on vit des cycles historiques qui sont en fait potentiellement des événements déstabilisants, des choses qui font que on perd les repères. On pourrait parler de tremblements de terre, d'explosions de volcans, des choses sismiques que je pense que la génération d'aujourd'hui peut tout à fait comprendre. Mais à l'époque, du coup, on revient jusqu'aux années 80 aux États-Unis, la naissance de la crise du sida, les premières grosses vagues de crise économique, la Californie qui voyait la plus grande migration dans l'histoire de la population humaine à cette époque-là, les gens qui allaient avec des espèces de rêves, de fantasmes en tête. Il y avait les guerres partout en Amérique centrale avec Reagan qui poussait le bouchon. Enfin, je pourrais en dire beaucoup plus. Il y a beaucoup de choses qui ont fait que cette période-là, elle était, elle rappelle un peu la nôtre, où il y a tellement de couches, il y a tellement de choses que forcément ça va jouer sur notre conscience, notre psychologie, et on n'avait pas les mots comme aujourd'hui où on peut parler de nos traumas et que tout le monde peut exprimer des choses avec un petit peu plus de facilité. C'est des choses qu'on partage. Mais on se retrouve isolé, pour le coup, en tout cas dans cette histoire-là, précaire, seul, à essayer de digérer des choses, sans trop savoir si ça vient de soi, si ça vient de l'extérieur, si c'est les deux. Et l'outil de la création artistique, la musique et le partage de ce truc-là avec les autres artistes, les autres musiciens et avec le public, qui sont pour moi d'une importance égale dans tout ça, c'est par ça qu'on se sauve, entre guillemets, pour revenir au titre que Stefano a trouvé, donc qui fait référence, il vous en parlera mieux que moi, qui fait référence aussi à notre metteur en scène, et qui est cette idée que, comment on fait en fait? On fait comment quand on accumule tout ça, tout ce bazar, tout ce trauma, tout ce qui peut être très moche, qui peut être très confus, qui peut être très difficile, on fait comment pour le transformer, pour le traduire, pour le sublimer, pour essayer de toucher les gens, pour sentir ensemble? Pour se sentir un peu moins fatalement détruit par les traumas. Et je crois que le spectacle, c'est un élément de réponse à ça. On a d'autres spectacles, ils sont pour les enfants, mais je pense qu'on revient toujours à ça, non? Quand on crée des trucs. Mm-hmm. Je sais pas ce que t'en penses.
Par quoi je me sauve, c'est une phrase de Tadeusz Kantor. C'est un metteur en scène et plasticien polonais qui est un des plus grands hommes de théâtre contemporain avec lequel j'ai travaillé. Et j'ai eu cette idée de l'appeler comme ça parce que c'est l'histoire d'un poète et il se sauve grâce à l'introspection du sensible. Et ce sensible est donné, c'est ce qui manque, selon moi, le plus dans notre société, la reconnaissance et le partage du sensible. C'est pour cela qu'on habite une planète qui est malade, une pathologie humaine très grande, parce que les poètes ne sont pas assez reconnus et, ils n'ont pas une utilité, qu'elle soit sociale ou politique. Parce que, mine de rien, c'est aussi un spectacle politique, parce que parle de cette importance du message, et on assiste, le public sera invité de la tête du poète, et on assiste à cette catharsis qui fait qu'on sort enfin. Pourquoi je me sauve? C'est le spectacle. Mmh.
Et au niveau de la musique, pourquoi avoir choisi le rock comme musique principale du spectacle ?
Je ne suis pas sûr que ça soit la musique principale du spectacle. Je pense que la musique, elle est aussi hybride que les formes qu'on met en place. Il y a c'est assez folk, c'est très hip-hop. Si vous connaissez Mama Said, vous allez peut-être en écouter tout à l'heure. Il peut y avoir du rap acoustique avec une guitare sèche. Il peut y avoir de l'électro pur et dur. Il peut y avoir vraiment, il y a une transversalité. C'est comme ce que je disais au début. Ce sont des outils que chacun arrive avec sa culture, avec son expérience, qu'il les met au service d'un propos. Et je pense qu'au fond, c'est peut-être le propos qui nous réunit, qui nous lie, et pas tellement le côté formel. Et c'est un peu ça le kiff du spectacle, c'est qu'il y a une joie, en fait, de pouvoir même toucher à des choses hyper trash, mais une joie, une euphorie, une jouissance de les traiter de cette manière-là. Le rock, c'est ça. Mais le blues aussi, enfin, toutes ces formes, c'est depuis peut-être le début des temps, enfin, je ne vais pas rentrer de l'analyse, mais... Est-ce que c'est pas justement trouver une manière de jouir de ses souffrances et puis de les transformer, là, une catharsis? Donc le rock, il est particulièrement pertinent parce qu'il peut gueuler, quoi, en fait. Mm-hmm. Il peut gueuler, il peut être strident, il peut hurler, il peut pleurer, mais c'est pas la seule des musiques. Et je trouve que de plus en plus, en fait, ces définitions se tressent sans se perdre. Parce qu'on entend quand c'est rock, on le sait, on le sent dans les tripes, dans le riff du batteur. Justement à ce propos, du coup, il y a avec nous sur scène, il y a Victor Paul à la batterie, aux machines, mais au jeu aussi, au texte. Il y a aussi Guillaume Artière qui est au clavier, à la basse, à la trompette. Voilà, il y a une panoplie de présence, même si on n'est que quatre, des fois j'ai l'impression qu'on est huit.
Et vous arrivez à équilibrer quand même le jeu, la narration et la musique?
C'est ça un peu la joie de cette découverte-là, c'est qu'au contraire, il y a vraiment de la connivence entre ces éléments-là. Il y a une sorte de... Mais ça, c'est le travail de Stefano, du coup, trouver cet équilibre-là, être garant de la cohérence, du coup, qu'il y a pas un élément qui prend le pas. Mais c'est pas évident de faire du théâtre et du rock et du rap dans un même spectacle. Vous allez en juger, parce que vous serez tous là, le 8 novembre à la Maison du Peuple, à 20h30, n'est-ce pas?
Bien sûr. Tu parles de 4 personnes et t'en as cité que 3?
Parce que j'ai cité Anaïs Douat au début... qui est, elle, du coup, violoncelle, basse et danse et acrobatie. Enfin, on va dire cirque, mais c'est pareil, c'est cirque contemporain, mais il ne faut absolument pas l'oublier. Surtout que, d'un point de vue de la production et du portage du projet, c'est le pilier central, c'est la personne qui est la première traductrice et dans la vie et sur scène de ces textes qui sont déposés, qu'on a tous en nous, mais c'est elle qui va les faire vivre d'une façon étonnante et nouvelle. Et de l'autre côté, elle est aussi derrière dans les dossiers, dans la diffusion, dans la gestion, dans l'organisation de tout ça. Donc, et puis, c'est aussi juste une personne géniale, quoi. Soit dit en passant.
Alors justement, Anaïs s'occupe de la diffusion. Donc après cette première sortie de résidence, est-ce que vous avez une méga tournée de prévu? Vous allez jouer ce spectacle partout?
Alors c'est intéressant parce que les spectacles comme ça, c'est un vrai défi à diffuser. Parce que qui dit hybride dit aussi prise de risque pour les programmateurs. C'est pas simple à caser. Je dis ça pas particulièrement pour nous, parce qu'on a de la chance, on a des dates derrière, on a des coproducteurs, on est assez soutenus même par des instances et tout ça, mais on a des compagnies amies qui font des choses très pointues, très poussées, pourtant dans lesquelles on peut rentrer facilement quand on est dans le public, mais pour qu'ils accèdent aux scènes, c'est pas évident. Et un spectacle qui est réellement hybride comme ça, c'est pas d'une grande facilité à vendre, mais pour l'instant, dès qu'on a eu un programmateur dans la pièce, quand on a fait une sortie de résidence, ben on a une date derrière, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et c'est vrai que Stefano nous a beaucoup mis en danger avec ce spectacle, et notamment on a toujours, chaque résidence, on en a fait 7 ou 8, je dis ça au pif, et il nous a toujours obligés à la sortie de résidence, même dès la toute première au club à Rodez, donc qui est un lieu de musique actuelle, c'est pas un lieu de théâtre. les gens venaient pensant voir un concert de Mama Said, et à la fin il y a eu une espèce de, les gens étaient un peu ébahis. Je sais pas si le mot est juste, mais et les échanges hyper riches. Mais c'est étonnant comme formule. Il a dit, on rentre dans la tête de quelqu'un, quoi. On rentre dans l'esprit de quelques-uns, même, j'ai envie de dire. On parle de santé mentale.
Les bruits de ses pensées aussi, à travers la musique.
Tout à fait. Dans les bruits de sa rage, dans la bruit de ses inquiétudes, ses peurs, ses moments de solitude, l'idée de l'enfance. Moi, je pense qu'on peut parler d'universalité. On n'est pas dans juste un rapport individuel à son passé. C'est autre chose. C'est pas, voilà, je suis né là et j'ai fait ci. Et puis, c'est quelque chose que... Quand on est un peu vaisseau, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais certaines personnes, on est juste des véhicules et on n'a pas forcément le caractère qui fait que c'est nous qui sommes intéressants, mais c'est des choses qu'on a traversées qui le sont. Est-ce que ça se comprend ce que je viens de dire ?
Oui, ça se comprend. Je pense que c'est un sentiment partagé dans tous les cas. Et le temps passe vite, mais merci beaucoup pour ce temps d'interview, pour avoir répondu à nos questions. Donc Joshua et Stefano de la compagnie La Brebis Égarée, de spectacles vivants et audiovisuels. Compagnie donc, qui vous invite à voir le spectacle Par quoi je me sauve, ce mardi 8 novembre à 20h30 au Théâtre de la Maison du Peuple de Millau. Merci beaucoup.
Du coup, c'est pas ce mardi quand même, hein, on est
non,
d'accord.
On est d'accord, mais okay. on a l'habitude de dire ce mardi, mais c'est le mardi 8 novembre.
C'est ça. Bon, mais merci beaucoup Radio Larzac et
merci à
la prochaine.
Vous, hein.
Peut-être
merci.
Que vous aurez l'occasion d'écouter un morceau ou deux de la troupe pour voir un peu si ça fait naître des envies.
Carrément.
Bonne continuation.
Oui.
Bonne continuation à
justement,
vous, merci.
On continue cette émission avec l'interview réalisée par notre bénévole Nicolas Duval. Il s'est entretenu avec Daniel Neuville, chercheur à l'Institut de physique du globe de Paris, qui s'était rendu à Millau il y a quelques semaines pour donner une conférence autour du verre comme matériau d'avenir, et on l'écoute tout de suite.
Daniel Neuville, bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, responsable d'équipe géomatériaux à l'Institut de physique du globe de Paris, ainsi que président de l'Union pour la science et la technologie verrière. Alors, pouvez-vous nous présenter votre sujet ? De quel verre parle-t-on précisément ici ?
Alors, effectivement, donc je suis président de l'Union pour la science et technologie verrière. C'est la société scientifique française du verre qui regroupe le monde académique et le monde industriel. Et le verre, la notion de verre englobe aussi bien le verre que l'on a devant nous au niveau des vitres de la Mesa, mais le verre dans lequel on boit notre café ou notre verre de jus de fruits ou d'alcool si on a envie. Mais le verre, c'est beaucoup plus large que ça. Le verre, ça correspond à un état de la matière. Cet état, en fait, la matière est découpée en trois états que l'on enseigne en école primaire. L'état solide, cristallin, l'état liquide et l'état gaz. Mais depuis 1926, les physiciens ont défini un quatrième état, qui est l'état vert. Alors, le vert, ça va être quoi ? Ça va être un liquide mixé solide. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'un verre, les atomes sont désordonnés comme dans un liquide. Ils peuvent bouger, mais simplement, la capacité de mouvement se fait en millions d'années. Ou alors, il faut augmenter la température pour qu'il bouge plus rapidement. Voilà ce que c'est qu'un verre.
Que peut apporter à nos sociétés une excellente maîtrise de ce matériau ? À savoir, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue santé humaine, ou en tout cas amélioration, je ne sais pas si on peut parler ainsi de l'humain, d'un point de vue analyse du passé.
Le verre, on en trouve partout autour de nous. On en trouve dans l'univers, on en trouve dans les volcans, on en trouve sur Terre. On en trouve le verre fabriqué par nos ancêtres. Donc en étudiant ces verres-là, on peut remonter au mode de fabrication utilisé il y a 1000 ans ou 2000 ans. En étudiant des verres volcaniques, on peut remonter à des idées sur la formation de la Terre ou la formation de l'univers, en étudiant ces verres-là, en regardant comment leur chimie, leur structure et autres. Et puis, le verre, je vais mentionner une chose importante, c'est que 2022 a été déclaré par les Nations Unies année internationale du verre, et j'ai fait partie du comité qui a été à l'initiative de ce projet. Pour quelles raisons les Nations Unies ont déclaré 2022 année internationale du verre ? C'est que le verre nous entoure partout, dans notre quotidien, mais également c'est un élément important pour répondre aux questions de la transition énergétique. Il faut savoir que lorsque l'on voit une éolienne, on peut aimer ou ne pas aimer, là n'est pas la question, mais une éolienne est faite en verre. Les pales d'une éolienne, c'est du verre. Et plus on veut faire des pales grandes, plus potentiellement il faut trouver des verres avec des propriétés mécaniques bien particulières. Les panneaux solaires, c'est du verre. On est en train aujourd'hui de travailler sur des batteries en verre qui auraient des capacités infinies par rapport à toutes les batteries actuelles. Alors, il y a plusieurs équipes en France. Il y a une équipe au Japon qui vient même d'imaginer une sorte de verre à vitre transparent qui peut stocker, emmagasiner la lumière extérieure et la stocker. Donc, on pourra avoir dans des horizons d'une vingtaine d'années des vitres qui sont à la fois des batteries et panneaux solaires. Mais le verre, également, il sert à notre environnement quotidien, potentiellement, pour reconstruire l'homme. Aujourd'hui, il y a des gros projets pour, à partir de verre, refaire de l'ossature dentaire. Avec du verre, aujourd'hui, on est capable de réparer des os. Il y a plusieurs centres hospitaliers en France qui travaillent avec des implants vitreux pour remplacer de l'os. Et dans les 2-3 ans qui suivent, le verre est transformé en os. Donc avec ces implants vitreux, on arrive à faire plein de choses. Le verre, c'est potentiellement la fibre optique qui nous permet d'avoir Internet à la maison. Mais on fait des fibres de plus en plus développées. On peut transporter de plus en plus d'informations. Et on peut faire des fibres qui vont transporter à la fois de l'information et à la fois de l'énergie.
Alors, pour rebondir plutôt sur cette facette, sur quel point se concentrent les recherches actuelles sur le verre ? Quels sont les points qui restent obscurs peut-être dans sa maîtrise, dans la maîtrise du matériau, ou alors ou d'autres points spécifiques ? Quels sont les enjeux actuels dans la recherche ?
La question est vaste, à savoir quels sont les enjeux aujourd'hui sur la recherche verrière. Il y a un premier enjeu théorique, j'en parlerai peut-être dans un moment. Après, il y a des enjeux dans toutes les disciplines. Il y a des enjeux sur le verre. Un volcanologue sera intéressé par ce qu'on va appeler les inclusions vitreuses. Ça va être des gouttes de magma qui datent de plusieurs millions d'années, qui ont été remontées lors d'éruptions volcaniques. En étudiant ces gouttes de magma, on va pouvoir remonter aux pressions, températures et origines de formation de ce magma. Si on s'intéresse à un médecin, qu'on discute avec un médecin ou un dentiste, il va dire « oui, mais moi, il me faut améliorer la résistance mécanique de mon os ou pour qu'il se soude plus rapidement. » Donc là, il y a des équipes énormes qui travaillent là-dessus. Il y a des équipes qui travaillent pour améliorer la transmission dans une fibre optique. On veut des fibres qui transmettent de plus en plus d'informations le plus en plus rapidement possible. Donc on est depuis maintenant une vingtaine d'années sur un plateau technologique et on n'arrive pas à aller au-delà d'une certaine bande passante. Donc il y a de vrais enjeux là-dessus. J'ai parlé tout à l'heure de batteries en verre. Le jour où ces batteries en verre seront commercialisées, il faut se dire qu'avec la taille d'une petite batterie de 1 cm, on pourra stocker une année d'énergie pour une maison, pratiquement. Les moyens sont démesurés en termes de capacité énergétique. Faire des éoliennes de plus en plus grandes, ça permet potentiellement sur les éoliennes offshore d'avoir plus de capacité énergétique. Après, il y a des enjeux absolument incroyables. Je ne sais pas quel est le téléphone que vous avez, si vous avez un smartphone ou pas, mais si en fonction de la marque que vous avez du smartphone, vous avez un écran qui est probablement ce qu'on appelle un écran en gorilla. Cet écran, c'est un écran ultra fin qui fait moins d'un millimètre d'épaisseur, fabriqué et développé par Corning, qui est le premier groupe innovant au monde en matière de verre. Un des gros enjeux aujourd'hui, depuis 3-4 ans, c'est de ce verre Gorilla, on peut le fonctionnaliser. C'est la même chose que sur votre smartphone. Vous touchez, vous avez des choses qui apparaissent en dessous. C'est ce qu'on appelle la fonctionnalisation. Mais cette fonctionnalisation, aujourd'hui, on veut la développer sur votre frigo, sur l'écran, le mur de votre armoire, sur le pare-brise de votre voiture. Alors, sur le pare-brise de votre voiture, ça va avoir un effet direct. C'est que dans 3-4 ans, les voitures qui vont être fonctionnalisées comme ça, c'est déjà le cas pour les Tesla, le poids du pare-brise va diminuer d'un facteur 2. Donc le poids diminuant d'un facteur 2, ça veut dire que vous allez consommer moins d'électricité ou de ce que vous voudrez pour rouler, puisque vous diminuez le poids de tout le verre de votre habitacle. Cette diminution de poids, elle a des répercussions à tous les niveaux. Si vous avez, on parle dans certains films de frigo fonctionnalisé, où vous avez le frigo qui vous dit ce qu'il y a dedans dans votre... tout ça, ça se fait grâce au verre. Parce que vous avez des milliers de capteurs qui sont dans des couches de verre qui vont visualiser ce qu'il y a, et tout cela communique avec votre smartphone. Et pour faire tout cela, c'est que du verre. Le moyen de transmission, c'est la fibre. Le moyen énergétique, ça va être du verre. Les moyens de fonctionnalisation, on fonctionnalise le verre, etc.
Y a-t-il eu une explosion de, on va dire, des recherches sur la matière verre ou sur l'état de matière ? Est-ce que le problème climatique et environnemental a relancé peut-être une recherche autour de cet état de matière et donc nous a amené aujourd'hui à savoir qu'un dé de 10 cm ou 1 cm de côté pouvait contenir une année d'énergie d'une maison? Ça, on le sait depuis quand? Comment s'est échelonnée la recherche autour du verre et la concentration scientifique autour de cet état de matière?
C'est clair que la transition énergétique que nous avons devant nous motive des entreprises et des équipes de recherche pour essayer de trouver des solutions. C'est clair que faire des fibres textiles de plus en plus performantes permettent de diminuer le poids d'une voiture, d'un train, d'un bateau, d'un avion potentiellement, de faire des éoliennes plus longues. Donc là, il y a de vraies équipes qui travaillent là-dessus. C'est essentiellement des équipes R&D d'entreprises avec quelques académiques. Le fait de se dire on va essayer de développer des batteries en verre, ça fait une petite dizaine d'années qu'il y a eu une réflexion qui s'est faite, parce que certains verres ont une structure un petit peu particulière et présente des capacités électrolytiques. Donc électrolytique, c'est potentiellement ce que l'on recherche sur une batterie, et les batteries au lithium typiquement, que l'on utilise depuis des années. Et donc les gens se sont dit, mais tiens, là mon verre, il pourrait peut-être être utile. Donc effectivement, il y a eu des équipes qui se sont développées depuis, pour essayer d'avancer dans ces sujets-là. De même, avant 1971, personne ne parlait de bio-verre ou de biomatériaux. Ça a été un scientifique anglais, Larry Hinch, qui a pris du verre à vitre à peu près. Il est dedans, il s'est dit, mais la partie biologique, c'est le phosphore. J'ai rajouté un petit peu de phosphore dans mon verre à vitre. Alors, il a un peu modifié son verre à vitre. Et depuis, il s'est rendu compte que ce verre-là avait des capacités intéressantes pour tout ce qui était osseux ou dentaire. Et ça a suscité la création de plusieurs équipes à travers le monde. Et puis, voilà. Et après, quand on est également universitaire, chercheur, alors pas forcément quand on est un jeune universitaire. Quand on est un jeune universitaire, on a un projet bien délimité pour 4-5 ans. Ça peut être un doctorat, ça peut être un post-doc ou des choses comme ça. Mais le moment où on a un certain âge, ou un âge certain, je ne sais pas comment il faut le dire, on a plus de liberté d'entreprendre. Et donc, dans mon équipe, potentiellement, pendant longtemps, on travaillait sur la matière désordonnée, les verres et les liquides magmatiques, à savoir les laves volcaniques. On essayait de mettre en place des modèles. Puis petit à petit, je me suis rendu compte que ces laves volcaniques, elles viennent à s'altérer, à disparaître. Donc, c'est important de regarder l'altération de ces matériaux. Et en regardant l'altération de ces matériaux, on en est amené à regarder l'altération d'un verre de monument ou d'un vitrail. On en est à regarder ce qu'on appelle l'altération du verre dans lequel on boit tous les jours. Il faut être sûr que les éléments qui sont constitutifs du verre ne passent pas dans votre organisme. C'est ce qu'on appelle la problématique du contact alimentaire. Et la Commission européenne est très vigilante là-dessus par rapport aux normes environnementales, aux normes REACH. Donc j'ai travaillé là-dessus. Puis en discutant avec des collègues, je me suis dit, tiens, mais c'est amusant, les biomatériaux. Donc potentiellement, on peut faire plein de choses. Et la seule limitation que je dis à mes étudiants ou à mes jeunes collaborateurs, c'est l'imagination et la volonté que l'on a.
Le verre, alors dans le sens commun, de ce que je sais, le verre provient du sable qui est porté à une très haute température. On parle aujourd'hui d'une pénurie de sable à l'échelle mondiale. Ça concerne peut-être plus le bâtiment et les cimentiers, etc. Mais est-ce que cette pénurie du sable peut menacer le verre et donc tout ce que l'on pourrait tirer du verre aujourd'hui?
Effectivement, dans les scénarios, on annonce une pénurie du sable sur les 30 prochaines années environ. Cette pénurie va toucher probablement un petit peu l'industrie verrière, l'industrie des ciments et une troisième industrie. La troisième industrie consommatrice de sable, c'est laquelle? C'est très amusant parce que personne ne le sait, c'est les cosmétiques. Les cosmétiques sont les plus gros, les troisièmes consommateurs de sable au niveau mondial. Et en plus, eux, il leur faut un sable, des grains de quartz ultra purs, ultra propres. Donc c'est relativement compliqué. Alors effectivement, à l'horizon d'une trentaine d'années, on peut imaginer qu'il risque d'avoir une pénurie. Mais potentiellement, nous en France, on est relativement bien protégés. On a les massifs granitiques, on a Fontainebleau, et on n'a pas de soucis à se faire avant plus de 200 ans. Donc ça, c'est un gros point. Les pays qui ont les plus gros problèmes, c'est les pays asiatiques, où là, il y a déjà, depuis plus de 15 ans, de vraies guerres du sable qui se produisent. Il n'y a pas de... Au niveau production, alors, le verre, c'est un état de la matière. On peut faire du verre, effectivement, avec du sable, mais dans lequel on va rajouter dedans du sodium et du calcium, puisque le verre à vitre, ou le verre dans lequel on boit son café ou autre, c'est de la silice, c'est-à-dire c'est de l'oxyde de silicium mélangé avec l'oxyde de sodium et l'oxyde de calcium. Et l'oxyde de sodium et l'oxyde de calcium que l'on prend, tout simplement, c'est le calcaire que l'on a sur le plateau du Larzac, qui va rentrer à hauteur de 15% de la constitution du verre à vitre. Et le sodium, c'est du carbonate de sodium. Alors aujourd'hui, on utilise du carbonate. Avant, on utilisait d'autres sources, mais nos ancêtres, il y a 2000 ans de ça, utilisaient une algue, la salicorne, que l'on faisait brûler. Et on récupérait la salicorne que l'on mettait rajoutée avec la silice et le calcaire pour fabriquer le verre. Mais je l'ai mentionné tout à l'heure, le verre, c'est un état de la matière, et quand vous faites du caramel, vous n'avez pas du tout de silice à l'intérieur. Mais effectivement, le verre qui nous entoure tous les jours, c'est du quartz que l'on va fondre, à mélanger avec du calcaire et du carbonate de sodium.
C'était Daniel Neuville au micro de notre bénévole Nicolas. Daniel Neuville était venu à Millau pour donner une conférence autour du verre comme matériau pour construire notre avenir. Et à ce propos, je vous rappelle que l'exposition « Dans le ciel » du maître verrier Claude Bayon est encore visible gratuitement jusqu'au 28 octobre au BEFRA de Millau. Et on se quitte pour cette émission sur des notes littéraires puisque c'est l'heure de la chronique d'Enora.
Découverte, idée, rencontre.
La chronique littéraire d'Enora dans son avant-ginaire.
Aventure et imaginaire au creux de vos oreilles.
Aujourd'hui, Enora revient sur un thriller psychologique qui l'a marqué au fer rouge il y a plus de 6 mois.
Je me souviens, j'étais dans le train. Et en moins de 5 heures, c'était lu. Je m'ai dit qu'on codéfilait les 3 premières pages de résister à lire la suite de Chansons douces de Leïla Slimani. Cette bombe atomique date de 2016. Je l'ai découverte l'année dernière et Dieu sait qu'elle m'a explosé au visage, puisque sans exagérer, je l'ai vraiment lu en moins de 5 heures d'affilée. La tension qui monte crescendo est menée avec autant de justesse que Vivaldi mène ses 4 saisons. Le danger révélé dans les 3 premières pages se dissimule dans le reste de l'ouvrage de manière si vicieuse que je l'imagine ramper au sol tel un serpent dont le sifflement ne serait que très ténu. Juste ce qu'il faut pour l'entendre, mais trop bas pour être certaine que le danger est vraiment là. C'est sournois. Pervers, visqueux. Leïla Slimani dépose ses pions avec une perfidie qui n'a d'égal que le voyeurisme des lecteurs et lectrices. On veut savoir comment l'histoire en est arrivée là. Comment on en arrive à cet extrait de la 2e page. Les voisins se sont réunis en bas de l'immeuble. Il y a surtout des femmes. C'est bientôt l'heure d'aller chercher les enfants à l'école. Elles regardent l'ambulance, les yeux gonflés de larmes. Elles pleurent et veulent savoir. Elles se mettent sur la pointe des pieds, essayent de distinguer ce qui se passe derrière le cordon de police, à l'intérieur de l'ambulance qui démarre toute sirène hurlante. Elles se murmurent des informations à l'oreille. Déjà, la rumeur court. Il est arrivé malheureux enfant. Dans ce roman, Leïla Slimani raconte le quotidien d'une famille parisienne classique. Un couple hétérosexuel, deux enfants, une fille et un garçon, les deux parents travaillent. Le grain de sable qui enraye cette mécanique bien rodée s'appelle Louise. Elle aussi est une femme classique. Blanche, mère d'une fille, nourrice, colle Claudine. Alors, qu'est-ce qui peut déraper jusqu'à ces trois premières pages du roman? Le gouffre entre l'être et le paraître. La différence entre paraître paisible et être dépassé. La différence entre paraître plus libre et être en vérité enchaîné. Le gouffre entre paraître bien sous tout rapport et être une menthe religieuse. Paradoxalement, j'ai adoré cette sensation de gêne qui m'a étreint les entrailles tout au long de ma lecture. C'était un sentiment unique, je sentais que les choses déraillaient, mais il n'y avait aucun élément palpable pour démontrer ce sentiment. Tout le génie de Leïla Slimani est de créer le frisson sans avoir à écrire la menace. Une reine qui mène la question de son roman à son apogée, puisqu'au-delà de questionner quel est le pouvoir de l'emprise, elle impose son emprise à elle de déesse des mots sur son lectorat. Pendant que je lisais, à quel point étais-je moi-même sous l'emprise de Leïla Slimani? Chanson douce, donc, de Leïla Slimani est éditée dans la collection Blanche de Gallimard depuis 2016. Il a même été adapté au cinéma par Lucie Borloteau et il est porté par deux femmes fortes que sont Leïla Bekti et Karine Viard. Il n'empêche que je vous recommande encore plus chaudement la lecture de ce thriller psychologique. Le malsain, croyez-moi, n'en est qu'en plus grandiose. C'est une braise qui saura brûler vos tripes jusqu'à ce que vous ayez le fin mot de l'histoire ou, comme moi, qui vous brûlera encore 6 mois après le point final. Merci de m'avoir écouté. D'ici à la prochaine chronique livresque, je vous souhaite de belles découvertes, chers avanginateurs et avanginatrices.
L'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac qui se cultive toutes les semaines.
C'était la chronique littéraire d'Enora qui vient conclure cette émission. Merci à elle. Merci aux invités du jour. Donc Loïc du Journal de Millau qui a interviewé Lin Vidal du Centre de Secours de Millau. Merci à Jérôme pour ta chronique littéraire.
Merci à vous de m'avoir laissé faire ma chronique.
Merci à Joshua et Stefano de la compagnie La Brebis Égarée. Merci également à Nicolas pour son interview à Daniel Neuville. Et enfin, merci à Alex et à Nico de l'équipe de la radio. Retrouvez cette émission en rediffusion demain, vendredi 21 octobre à 19h. Et tout de suite, c'est le Flash Info de RFI sur Radio Larzac. Très très belle continuation à vous sur nos fréquences.